Stéréautisme, le podcast qui donne la parole aux étudiants sur le spectre.
Noctambulisme, autodiagnostic et rapport au travail entre autres, venez découvrir Wessel qui nous fait le plaisir de nous raconter son parcours. Un épisode personnel qui retrace les questionnements paradoxaux parcourant la trajectoire d'une vie sur le spectre. Bonne écoute.
Du coup, on a l'habitude dans ce podcast de commencer par une petite question introductive, un peu chelou. Donc on t'a proposé une liste, est-ce qu'il y en a une qui te plaît pour l'instant et à laquelle tu aimerais répondre ?
J'ai pas encore choisi, je dois l'avouer.
Pas tout ton temps, hein.
Je vais partir sur Aurore ou Crépuscule, je pense.
D'accord.
Plutôt Aurore, quand même, je dirais.
Et pourquoi ?
Parce que les premières lueurs du soleil après une nuit éveillée, bon, sauf si ça indique qu'on n'a pas encore fini un truc qui est pendant exactement 2 heures, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment le retour de la lumière qui perce à travers l'obscurité, etc. Je trouve ça très joli.
Tu fais plutôt partie de la team Lève-tôt ?
Ah non, non.
Donc tu te lèves
pas du tout
si tard que tu peux voir le crépuscule.
En fait, mon rêve, à titre personnel, ce serait de vivre la nuit, essentiellement. Mais bon,
je comprends.
C'est pas toujours possible. Donc du coup, je vois pas souvent l'aurore. Mais quand je le vois, c'est très beau, c'est très joli.
Donc, je voulais te poser en première question. J'aimerais savoir pourquoi tu as accepté de participer à cette présentation. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet ou qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant ?
Alors c'est très marrant parce que c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Enfin pas de réponse claire. Alors le projet de visibiliser le spectre autistique dans l'école est vraiment me semble être quelque chose d'important. Donc, si ça se présente sous le format d'un podcast, pourquoi pas. Mais pourquoi j'ai voulu y participer, moi, j'ai pas forcément la réponse. Je pense qu'il y a une part de me forcer, en quelque sorte, à me sentir légitime à parler de spectre autistique. Parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de difficultés.
À parler du spectre autistique en ton nom propre ou en général ?
Parce que j'ai du mal à en parler en mon nom propre, j'ai du mal à en parler en général, mais c'est plus en mon nom propre le problème. Et donc du coup, il y a une partie de j'ai participé pour... presque pour me forcer à y participer, en fait.
D'accord. En tout cas, j'espère que cette discussion entre nous, ça pourra, déjà te légitimer et un peu te déstresser sur ce point de vue, parce que tout l'intérêt du podcast, c'est aussi de recueillir tes expériences personnelles, et quelles qu'elles soient, elles ont une valeur en soi. Et peut-être que ça pourra aussi te faire aimer d'en parler. Enfin, moi, je sais que c'est un de mes intérêts spécifiques de faire les deux titres, donc... J'ai du mal à saisir ce que tu expliques, mais si jamais je peux te faire aimer un petit peu toute la culture autistique et tout l'intérêt de pouvoir visibiliser la neurotypie, ça me fera très plaisir.
En fait, c'est pas que je ne trouve pas ça intéressant ou que lire des ressources sur le sujet, par exemple, ne m'intéresse pas. C'est plus que j'ai longtemps eu du mal à m'identifier au spectre autistique pour diverses raisons. Et du coup, j'ai encore du mal... Enfin, il m'arrive souvent de douter, de me dire « Non, mais je suis pas vraiment sur le spectre autistique. » etc. Et donc c'est plus ce côté, c'est pas l'autisme en soi qui ne m'intéresse pas, c'est au contraire ça m'intéresse beaucoup, c'est plus en parler en mon nom propre en fait, typiquement.
Je comprends. Encore une fois, si jamais il y a un moindre la moindre gêne ou quoi que ce soit, ou des questions trop intimes, il n'y a aucun problème. Donc merci beaucoup pour ta première réponse. Maintenant, j'aimerais savoir comment et quand tu t'es rendu compte que tu n'étais pas neurotypique.
C'est une bonne question. Du coup, j'ai appris récemment que le HPI était considéré comme une neuroatypie. Et donc, en ce sens-là, j'ai un diagnostic de potentiel intellectuel depuis très jeune. Je peux être plus ou moins considéré comme neuroatypique depuis petit, mais le fait de connaître le terme de neuroatypie, de comprendre les concepts associés et de comprendre que ça s'appliquait à moi, je pense que c'est beaucoup plus récent.
D'accord.
Probablement quelques mois, pas beaucoup plus. J'ai toujours senti que j'étais que j'étais pas forcément exactement comme les autres. Mais le terme de neuroatypie n'est pas venu avant il y a quelques mois.
Et du coup, comment tu l'as découvert, par quel média?
Par les réseaux sociaux, essentiellement. J'en ai entendu parler sur Twitter, surtout au départ. Parce que, d'abord, j'en ai entendu parler comme d'un sujet politique, de la question de la place du handicap psy, donc s'ensuit la question de la place de la neuroatypie dans la société. Donc j'en ai d'abord entendu parler comme ça. Et puis, j'ai fini par me rendre compte que certains des termes que je voyais passer, quand je regardais, ça pouvait me correspondre beaucoup. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à poser le terme de neuroatypique.
D'accord. Et donc là, n'hésite pas à me dire si c'est trop intime, mais plus personnellement, est-ce qu'il y a une expérience ou un moment de ta vie où tu t'es rendu compte quand même qu'il y avait une sorte de décalage avec d'autres personnes que l'on qualifierait plutôt de neurotypiques? Il y a eu un moment où tu as senti, on va dire, enfin, ce qui t'a mis la puce à l'oreille de te dire peut-être qu'il faudrait que je me renseigne sur ces sujets-là.
Il n'y a pas eu de moment de ce genre où, en me sentant trop différent, j'ai décidé de me renseigner. Quand j'étais petit, il y avait des moments où je me sentais vraiment très différent. Soit je l'interprétais comme juste... je n'ai pas les mêmes goûts que les autres, c'est normal si je suis tout seul dans la cour de récréation, ou que je n'aimais pas avoir des amis, je n'aimais pas les gens, ou je ne sais pas, d'autres interprétations du genre que je pouvais poser quand j'étais plus jeune. Les recherches sont venues donc plus tard, quand j'ai entendu parler de la neuroatypie, donc du coup, comme je l'ai expliqué avant, par d'autres moyens en fait. Et donc du coup, c'est à partir de là, ou en discutant avec des gens neuroatypiques sur Twitter, que je me suis rendu compte que ce que ces personnes racontaient ressemblait parfois de manière très troublante à mon vécu.
À ton expérience personnelle.
Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner.
D'accord, du coup c'est très drôle que dans tes débuts, on va dire, de prise de conscience de ton côté neuroatypique, tu dis à la fois que tes premiers signaux c'était le fait de, par exemple, ne pas vouloir d'amis ou de rester seul, et en même temps il y a ce lien avec des personnes à travers les réseaux sociaux, entre guillemets, de partage d'une expérience commune. Du coup tu as réussi quand même à tisser des liens, entre guillemets.
Du coup, ce que je vivais, je n'avais aucune représentation de neuroatypie quand j'étais plus jeune, donc je n'avais pas conscience du fait qu'il pouvait même exister des termes à mettre dessus.
D'accord.
Et donc, du coup, c'est juste plus tard quand j'ai découvert ces termes et les vécus qui étaient associés, que je me suis dit, mais en fait, mon vécu a sa place parmi les récits des autres gens de la communauté neuroatypique. Donc c'est à ce moment-là que, à la fois que j'ai pris conscience du coup, à la fois que j'ai découvert le concept de neurotypie et que j'ai fait le lien avec ce que je percevais déjà comme étant quelque chose d'assez singulier chez moi, mais qui n'était pas, mais sur lequel je ne posais pas ces mots-là, ni même les concepts.
Ok. Le fait de poser un mot, un concept sur cette expérience singulière, est-ce que ça t'a aidé ou c'était juste anecdotique bon, bah, fun fact, maintenant j'ai un mot pour le décrire.
Je pense que pour le coup, ça m'a beaucoup aidé.
Ok.
Parce que j'ai longtemps culpabilisé pendant ma scolarité. En fait, depuis que je suis jeune, j'ai ce qu'on pourrait appeler des facilités à l'école.
Mm-hmm.
Je m'en sors en fait sans travailler du tout. Et du coup, je culpabilisais en me disant, parce que en plus c'était ce que racontaient nos professeurs, de bon là pour l'instant c'est le primaire, mais vous allez voir au collège va falloir charbonner. Au collège, bon c'est le collège, il va falloir charbonner au lycée. Si tu fais prépa, va falloir charbonner. Et en fait, je continuais à m'en sortir sans jamais travailler, même en prépa.
D'accord.
Mes camarades me racontaient, plus à la fin de l'année, parce qu'au début de l'année, ça aurait été pas très sympa quand même,
mm-hmm.
qu'au début de l'année, ils étaient, ça les agaçait de voir que en cours de maths je ne suivais pas beaucoup et que ça se voyait que je ne travaillais pas beaucoup et que je me sortais avec des bonnes notes en DS.
C'est compréhensible.
Et donc du coup j'ai, en fait à chaque fois je me disais mais en fait il y a un moment où je vais me prendre le mur, je vais me manger ce mur de à un moment il va falloir que je travaille, j'ai jamais appris à travailler, comment je vais faire.
C'est ce qu'on te promettait aussi dès le début de ta scolarité.
Mmh. Et en fait, quand j'ai entendu parler de neuroatypie, et notamment, c'était surtout le TDAH,
mm-hmm.
TDAH, j'ai compris que j'étais pas du tout le seul à avoir cette difficulté à travailler ou l'impression de ne pas avoir appris comme les autres à travailler,
mm-hmm.
ou ne juste pas réussir à travailler quelque chose que j'avais vraiment pas envie de faire, là où je voyais que d'autres gens étaient parfaitement capables, et qu'en fait j'étais pas le seul, que c'était le cas de d'autres gens et qui s'en sont sortis finalement.
C'est drôle que tu explicites que tu n'avais pas besoin de travailler entre guillemets pour réussir, et que en expérimentant ça, t'avais peur, en gros, de pas avoir de vie, de pas y arriver, entre guillemets. Alors qu'au contraire, on pourrait, je pense, avec un regard un peu de néophyte, se dire, bah, trop facile, sans lever le petit doigt, il y arrive super bien, ça va rouler tout le temps, quoi, entre guillemets.
Je sais. Et du coup, ça faisait un peu partie de... Ça faisait aussi partie de ce qui me faisait culpabiliser, parce que je me disais... Mais déjà arrivé d'essayer d'en parler avec les gens se moquaient de moi, en mode mais Wassel, de quoi tu te plains?
Oui.
Et je comprends, enfin je comprends parfaitement, je voyais des gens qui travaillaient des heures et des heures d'arrache-pied et qui me voyaient moi dormir en classe et arriver avec une note meilleure qu'eux à la fin. Je comprends que ça devait être insupportable à voir, et en même temps
c'est pour rien.
En même temps, de mon point de vue, moi, ça m'inquiétait plus qu'autre chose. Enfin, c'était sympa d'avoir des bonnes notes, mais...
Mais t'étais pas dans la norme...
Mais surtout, je me disais, à un moment, ça va s'arrêter. Et le jour où ça s'arrête, je sais plus quoi faire.
Oui, oui.
Et je ne sais même pas comment apprendre quoi faire, parce que j'ai déjà dépassé le stade où j'aurais dû le faire.
Travail, du coup, t'as jamais eu à travailler, en quelque sorte. Et du coup, moi, ma question, je me demande, est-ce que tu penses que c'est... Tu ne travaillais pas, ou juste ta façon d'apprendre, en gros, n'était pas la même que la façon dont on se représente le travail classique, bon, bah, là pour le coup, d'un étudiant en prépa, avec les longues heures hyper sèches, on va dire, d'apprentissage ingrat, entre guillemets. Est-ce que c'est peut-être parce que tu avais un intérêt particulier pour la discipline dans laquelle tu étais, ou tu ne te rendais pas compte que tu travaillais parce que ça te plaisait, en fait, tout simplement?
Je pense. Qui a au moins deux facteurs. Déjà, celui-là, en réalité, il m'arrivait de travailler, juste pas de manière aussi régulière et pas de manière aussi pondérée entre les matières, en quelque sorte. Genre, je connaissais l'informatique depuis assez jeune. J'avais appris plus ou moins en autodidacte avec de l'aide de mon frère et d'Internet, bien sûr. C'était quelque chose que j'adorais faire. Et typiquement, cette anecdote-là est assez rigolote. Le premier week-end de prépa, on avait déjà eu un cours de notre prof de maths, je crois. Okay. En fait, il nous avait présenté, je ne sais pas si tu vois, les pop-its, les trucs pour Steam.
Ouais.
Et il nous en avait ramené un en classe.
Pour canaliser l'attention.
Sauf que lui, il avait mis des règles dessus, des règles de jeu. Il nous avait demandé de voir si on pouvait le résoudre. Moi, j'ai passé le week-end sur mon ordi à programmer un logiciel pour pouvoir résoudre le jeu de manière automatique et essayer d'en... Et du coup, quand on était revenu le lundi et que le prof nous a reposé la question à ce sujet-là, moi, j'ai levé la main en mode « Oui, alors avec telle et telle personne, on a trouvé cette représentation du jeu qui permet de simplifier. Et après ça, j'ai fait un programme Python qui fait un graphe de toutes les possibilités possibles. et puis, j'en tire que ça marche. Ça gagne à tous les coups.
Okay. »
Et enfin, je voyais que les autres étaient en mode « Mais qu'est-ce qu'il a foutu ?» Mais du coup, oui, j'avais... sur ce sujet-là spécifiquement, j'avais passé littéralement un week-end entier. Alors qu'en même temps, si on m'avait demandé de commencer à réviser le début de cours qu'on avait lu, au bout de 10 minutes, je me serais retrouvé perdu sur Internet.
Donc finalement, en fait, ton prof, aussi bizarre que pouvait paraître cette introduction, elle était hyper pertinente pour toi. Au moins, ça t'a accroché, entre guillemets.
Alors, en tout cas, ça m'a trouvé quelque chose de pertinent à faire pour ce week-end-là. Je pense que du coup ça c'était le premier facteur qu'en réalité, même si je n'en ai pas l'impression, parfois je travaille, ça fait très bizarre dit comme ça. Et je pense que l'autre facteur c'est qu'en réalité j'arrive à retenir assez bien en cours, donc en écoutant le cours, même parfois de manière pas très attentive.
Et du coup, je me demandais, quand tu as commencé à connaître un petit peu le concept de neuroatypie, à en parler avec d'autres gens, bah, notamment sur Twitter, comme tu expliquais tout à l'heure, est-ce que, entre guillemets, ça t'a donné envie de te faire diagnostiquer ? Enfin, est-ce que tu es diagnostiqué ou est-ce que ça te dérange d'en parler, entre guillemets ?
Je ne suis pas diagnostiqué.
D'accord.
Je ne sais pas si je compte le faire, un jour.
C'est quelque chose qui te rebute, entre guillemets, ou au contraire qui t'attire
En fait, je ne suis pas sûr d'en voir l'intérêt. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûr de voir ce que ça pourrait m'apporter.
C'est quand même une forme de, entre guillemets, de reconnaissance, certes, encore aujourd'hui trop médicale. Et tout le débat de est-ce que l'autisme est un handicap ou non, on pourra en parler plus tard, mais ça, enfin, j'ai l'impression que ça permet quand même de débloquer tous les aménagements nécessaires, entre guillemets, ne serait-ce que d'un point de vue scolaire. L'institution, je pense pas qu'elle puisse mettre en place des aménagements sans diagnostic, ce qui est vraiment dommage de ne pas faire confiance à ces étudiants qui réclament certains aménagements, pas uniquement pour le décorum ou pour un certain confort, mais juste parce qu'ils en ont besoin.
Après, je trouve ça quand même assez dommage que ce soit aux étudiants sur le spectre autistique de faire la démarche, d'obtenir un diagnostic pour pouvoir faire la démarche auprès de l'école pour que l'école ne soit pas juste refermée sur enseigner à des neurotypiques. Et donc, de ce point de vue-là, avoir un diagnostic et demander des aménagements dont je ne suis pas sûr d'avoir vraiment besoin serait presque une forme de d'accepter la façon dont ça marche.
Ouais.
Parce que je suis pas sûr de vouloir. Et il y a l'autre question avec le diag du fait que au final ça reste dans le dossier médical. Ça reste dans le dossier médical avec les problèmes que ça peut engendrer si on tombe un jour sur un médecin trop rempli de préjugés, etc. Donc tout ça fait que au final je ne suis pas si sûr que ça dans les avantages que cela pourrait m'apporter, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. Et il y a quand même un certain nombre d'inconvénients. Donc, je suis sûr de ne pas vouloir. Donc, en l'état, je ne compte pas faire la démarche tout de suite, mais je n'y suis pas forcément fermé totalement.
Ok. Et du coup, on parlait des aménagements mis en place. Donc là, on cherche à mettre... à donner la parole aux étudiants et étudiantes sur le spectre de l'autisme au sein de l'ENS de Lyon. Du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a certains aménagements à l'ENS qui sont intéressants pour les personnes sur le spectre, ou peut-être des adaptations, des projets à mettre en place qui pourraient rendre l'inclusion des personnes autistes plus facile, entre guillemets?
Je n'ai pas beaucoup d'idées, à part éventuellement peut-être de la sensibilisation à la fois des personnels et des étudiants-étudiantes pour que tout le monde soit au courant, que ce soit plus facile de que les gens comprennent quand quelqu'un demande à ce qui est moins de bruit, par exemple, ou de baisser la luminosité ou d'arrêter un bruit répétitif qui devient gênant.
Au hasard, la soufflerie de Descartes. Oui, je comprends, ouais. Mais du coup, c'est assez intéressant de ta volonté de vouloir prévenir à la fois, enfin, instruire à la fois les personnels, le corps enseignant, les étudiants et étudiantes. T'es assez à l'aise avec le fait d'assumer, d'expliquer que tu es sur le spectre. Voilà, j'imagine que si tu participes à ce projet en ton nom propre, t'as fait ce travail-là. Mais est-ce que par exemple, tes proches, même au sein de l'école, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que t'en parles avec eux ou...
À vrai dire, il y a plus ou moins personne qui est au courant.
D'accord,
oui,
ça va être le gros reveal.
Non, il y a plus ou moins personne qui est au courant, ne serait-ce que parce que du coup, j'ai très souvent du mal à me considérer comme légitime, donc du coup, j'en parle pas vraiment, au final. Donc du coup, non, il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant. Mais je fais aussi ce podcast parce que, en un sens, j'ai plus ou moins décidé de l'assumer. Je suis pas forcément d'accord avec cette décision tous les jours, mais...
Ouais. Tu apprends un peu peut-être les conséquences que ça peut avoir, est-ce que, enfin, peut-être un changement de la part du regard des autres ou...
Un peu, oui. Je dois le reconnaître. J'espère que c'est sans fondement, que ça ne me causera pas de problème, mais le fait est que cette peur est là, pour l'instant, oui. Au moins.
Je comprends tout à fait, enfin... J'ai lu énormément de bouquins, d'articles sur le spectre de l'autisme. C'est vrai que beaucoup d'enquêtés font le parallèle entre parler de son diag ou de son appartenance au spectre autistique et une forme de coming out, en fait, de devoir l'assumer dans la sphère sociale. Ça change malgré tout le regard des autres et c'est aussi dû à beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés par... des exemples qui demeurent dans la pop culture, un petit peu illusoires en fait sur ce que c'est qu'une personne autiste. On a encore aujourd'hui les stigmates du Rain Man classique, un homme, avec tout ce que ça implique.
Oui, complètement. Par contre, le fait de le faire dans le cadre de ce podcast, ça fait quand même que la mise au courant, enfin le fait d'en parler publiquement, ça s'accompagne quand même d'explications, de tout ce que je raconte dans le podcast et des autres éventuels épisodes du podcast qui les accompagneront. Donc il me semble que c'est pas exactement pareil que de juste dire de but en blanc, je suis sur le spectre autistique. Non pas que je reproche à celles et ceux qui le font de le faire. Les gens qui éventuellement viendraient m'en parler après avoir écouté ce podcast, a priori, ils auront écouté le podcast, déjà.
Donc, ils en sauront déjà un peu plus.
Ils en sauront déjà un peu plus que leur préjugé de départ, si elles en avaient.
Et puis, ils te connaissent surtout d'avant, donc ce serait un petit peu curieux quand même que d'un coup, juste parce que tu assumes ce pan-là de ta personne, que le regard sur toi, entre guillemets, diffère complètement.
Ça me semble pas si impossible. En fait, il y a les... Tu parlais de coming out tout à l'heure et du lien, du parallèle qu'on peut faire. Le fait est que c'est quelque chose qui peut arriver, il me semble, avec la neuroatypie. J'espère que ça n'arrive pas, beaucoup. J'ai pas beaucoup de chiffres, j'ai pas du tout de chiffres là-dessus. Mais je n'ai pas de difficulté à concevoir cette possibilité.
Ah oui, c'est certain. Enfin, je me suis mal exprimée si c'est ce que tu as compris. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans un cercle intime et proche, ça devrait pas en fait être une appréhension de pouvoir parler de ce pan-là de ta personnalité, parce que d'assumer entre guillemets que t'es sur le spectre, enfin ça va pas changer entre guillemets ta personnalité. À la limite, si ça la change entre guillemets aux yeux de tes proches, c'est peut-être parce que tu faisais du masking avant.
Petit point pour expliquer ce qu'est le masking ou camouflage social. Donc, le masking chez les personnes autistes est un terme utilisé pour décrire les comportements qui consistent à cacher ou masquer des aspects de soi-même, donc notamment ses caractéristiques autistiques, vis-à-vis d'autrui pour traverser les interactions sociales quotidiennes. Le camouflage est une expérience communément rencontrée par les personnes autistes lorsqu'elles naviguent dans le monde des personnes non autistes.
Et que tu te permets en fait d'être plus à l'aise et de laisser un petit peu plus à découvert, si tu peux le formuler comme ça, certains traits un peu plus autistiques, ou alors de demander certains aménagements pour que ta vie soit plus facile, tout simplement.
Je suis d'accord que ça ne devrait pas être une appréhension, mais le fait est que c'est aujourd'hui malheureusement difficile d'en être sûr. Dans le cadre de la neuroatypie, il y a aussi une autre possibilité. C'est les gens qui non pas te regardent différemment, mais rejettent en fait tout simplement ce que tu leur dis, parce qu'ils se disent justement, je te connais. Tu ne peux pas être autiste.
Ah oui, il y a un rejet carrément de...
Un rejet assez violent de ce qu'on vient juste de leur dire.
Voilà.
Et avec parfois même, au final, une rupture des liens, parce que cet entourage-là en a marre qu'on essaye de leur expliquer que si, je sais ce que je dis,
oui.
je suis bien sur le spectre autistique, c'est juste que tu ne sais visiblement pas ce que c'est en réalité.
Mais c'est sûr que quand tu as réussi à avoir la confiance nécessaire pour annoncer cette information, quand il n'y a aucune reconnaissance de la part de ton interlocuteur et qu'il rejette, alors que tu viens de lui faire un petit peu la confidence hyper intime d'une partie de ta vie, c'est sûr que ça te donne pas envie de continuer à en parler.
Exactement. Ouais, finalement, ça te décourage d'en reparler, voire carrément, ça peut faire douter ou induire des crises de légitimité, etc. Soit on arrive à garder la confiance, et dans ce cas-là, ça peut être aussi l'entourage qui décide de rejeter définitivement parce qu'il refuse, il refuse d'entendre
il refuse
ça.
Il refuse catégoriquement que ce soit une réalité.
Encore une fois, j'espère que ce n'est pas beaucoup le cas.
J'espère aussi.
Mais je n'ai pas de, enfin, je n'ai pas de moyen de m'en assurer, malheureusement.
On verra. Après, ça sera intéressant aussi peut-être de faire des deuxièmes épisodes pour voir si tu as des retours, de voir comment ça s'est passé en fait. Aussi de l'assumer, entre guillemets, dans la sphère sociale, cet aspect-là de ta personnalité.
Pourquoi pas?
Carrément. Et du coup, je me demande, le fait d'être autiste, si ça te va de le formuler comme ça, quel impact ça a sur ta vie? Est-ce que tu dirais que c'est assez utile, comme tu nous as expliqué le fait que tu n'avais pas besoin de travailler pour exceller? Ou alors, est-ce que tu considères plus, comme on peut l'entendre parfois, que l'appartenance au spectre autistique, c'est une forme de handicap?
Bah, l'autisme a à la fois des impacts positifs et négatifs. Donc, cette capacité à travailler à fond, un sujet qui m'intéresse, etc. Après, les impacts négatifs sur la vie en société me paraissent quand même assez gênants pour moi. En tout cas, dans l'expérience que j'en fais.
Tu peux nous en dire un peu plus, enfin, par exemple, donner des exemples de quel pan de la vie en société est difficile à vivre?
La difficulté à comprendre et mettre en place des amitiés, à les garder aussi. J'ai typiquement pratiquement plus aucun lien avec j'ai plus aucun lien avec des gens de mon école primaire, de mon collège, et presque plus avec mes camarades de lycée déjà, alors qu'on parle de 2 3 ans
De différence,
de enfin, que ça date d'il y a 2 ou 3 ans, et le sentiment d'isolement que ça peut engendrer.
c'est vrai que c'est super intéressant que tu parles de ça parce que ça permet aussi de montrer une autre facette et de lutter un peu contre le stéréotype de la personne autiste qui vit seule et qui, entre guillemets, se satisfait de cette situation. Enfin, les difficultés sociales des personnes autistes ne signifient pas qu'ils se plaisent dans la solitude de manière absolue. Il y a un besoin de solitude parce que les interactions sociales sont difficiles. Ça ne veut pas forcément dire que l'absence de relation, de façon absolue, donc que ce soit amoureuse, amicale, des liens entre guillemets avec d'autres individus avec lesquels on s'attache sur le plan personnel et intime, bah, c'est un besoin de tout être humain, quoi. Et c'est une nécessité aussi pour les personnes autistes et qui est assez difficile à mettre en place du fait de leurs difficultés sociales.
Oui, complètement. Il y a aussi, je dirais que ce cliché de la personne autiste qui se satisfait d'être seule, je pense qu'il y a aussi, que c'est juste une forme de supporter ce que ça implique. On se convainc qu'on aime bien, qu'on préfère être seul, parce qu'au final, il vaut mieux être. On préfère se convaincre que la seule alternative en réalité qu'on a est celle qu'on préfère.
Oui.
Plutôt que de devoir se dire
J'ai envie de ça, mais je suis pas capable de me
j'ai
mettre en place.
j'ai envie de j'ai envie d'avoir un peu plus de relations sociales. Pourquoi j'y arrive pas? Juste de se dire non, mais de toute façon c'est juste que ça ne m'intéresse pas,
Ok.
et planquer le sujet sous le tapis en quelque sorte.
Et du coup, pour les auditeurs, auditrices qui écouteront ce podcast, est-ce que tu aurais des astuces à partager? Si tu as réussi un peu à dépasser cette difficulté-là ou...
Non, je ne suis pas sûr d'être le meilleur conseiller sur le
Oui,
sujet.
c'est pas grave, tu seras auditeur du podcast aussi et on aura certainement d'autres entretiens qui pourront en donner.
Bah, du coup, si quelqu'un qui écoute ce podcast, qui est sur le spectre autistique et qui pense avoir des conseils, veut venir faire le podcast.
N'hésite pas à nous contacter, on va faire de la
Je
pub en même temps.
serais ravi d'écouter l'épisode en question.
T'as pas réussi à mettre en place, enfin je sais que la plupart des personnes sur le spectre que j'ai pu rencontrer me disaient, bah, notamment des personnes dans l'info, me disaient fonctionner parfois un peu comme des algorithmes, justement, à reconnaître un peu des schémas de situation et à se dire, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et avoir un rapport un peu machinique à certaines situations sociales pour, un, évidemment, se protéger, savoir comment interagir, et aussi pouvoir, en fait, y accéder, les surmonter au mieux, entre guillemets. Est-ce que tu as ce genre de mécanisme un peu, de scénario préconstruit?
Le côté algorithmique me fait très rire parce que c'est quelque chose que j'avais, enfin, que j'avais pensé en fait. Le fait de dire, enfin, de me dire au final je fonctionne plus ou moins comme un langage de programmation. Dans ma tête c'est du Python, etc. Quand j'en avais parlé à des amis, ils m'ont répondu, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes encore à celle? Mais c'est vrai que ce côté fonctionner comme un algorithme, je l'ai intégré. Je ne sais pas à quel point je l'ai intégré ou si c'est un peu plus inné, je ne sais pas trop. Mais du coup, typiquement, j'ai une horreur des expressions comme « ramène-en deux ou trois ». C'est deux ou c'est trois,
ouais.
Deux ou trois n'est pas une instruction valide.
Tu demandes précision du coup, ou maintenant tu sais que t'as un peu un catalogue d'expressions soit imagées, soit trop imprécises, et tu sais à quoi ça correspond entre guillemets au fur et à mesure de tes expériences de ta vie, quoi. Tu finis par avoir un peu un catalogue personnel que tu construis.
Du coup, c'est à chaque fois, j'essaye de me dire, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a plus besoin de 3, est-ce qu'il y a plus besoin de 2, quel est le nom qui me plaît le plus là tout de suite? Bah, du coup, oui, je finis par essayer de faire un choix, parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand on demande aux gens, bah, ils te disent bah, juste 2 ou 3, je sais pas.
Oui.
Moi,
moi
non plus, je ne sais pas.
Ça paraît complètement anodin de...
Ouais. Mais donc, du coup, oui, il y a ce côté fonctionner comme un algorithme, mais je ne suis pas sûr, peut-être que je ne le fais pas assez bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment efficace pour des relations sociales. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit efficace pour des relations sociales, parce que en fait, il y a quand même beaucoup de paramètres, de questions supplémentaires qui se posent quand on parle de relations sociales. Et disons que une approche très algorithmique peut suffire pour disons survivre en société en quelque sorte, survivre à l'école, être capable de tenir un travail en groupe, etc.
Mais pas construire des relations.
Exactement, pas construire des relations, pas vaincre le sentiment d'isolement. Après, j'ai peut-être juste pas le bon algorithme, hein. Je ne sais pas.
Peut-être qu'au terme de ce podcast, on finira par parfaire un petit peu les mécanismes.
Je l'espère. Je l'espère.
Du coup, cette difficulté parfois à nouer des relations, enfin, ça me questionne un peu. Je me dis, est-ce que ça t'arrive parfois de faire du masking? Est-ce que tu sais déjà en quoi ça consiste? Et est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques qui t'aide, entre guillemets, sur le plan social, même si je sais que pour les personnes sur le spectre, c'est toujours une grosse difficulté et il ne faut pas trop se laisser aller dans cette facilité du masking, entre guillemets, c'est-à-dire à faire semblant d'être neurotypique, à mimer, entre guillemets, le comportement d'autrui, parce que c'est le risque du burn-out autistique.
Petit point sur le burn-out autistique. C'est une forme de burn-out particulière aux personnes avec des troubles du spectre de l'autisme, impliquant un épuisement chronique, doublé d'une perte de fonction et d'une tolérance réduite aux stimuli. Il survient notamment en raison des efforts demandés aux personnes autistes pour s'adapter à un environnement conçu selon des normes neurotypiques. Longtemps décrit uniquement par des personnes elles-mêmes autistes, la première description clinique du burn-out autistique dans la littérature scientifique est publiée en avril 2020 par Raymaker.
Je ne dirais même pas que je pratique le masking. C'est plus quelque chose qui fait partie de moi.
Okay.
Je ne sais pas quand exactement c'est arrivé. Mais le fait est que c'est plus ou moins automatique et que j'en ai même pas conscience en réalité sur le moment. C'est juste à la fin d'une interaction avec des gens que je me rends compte, ah mais en fait c'était presque pas moi qui parlais là.
Et ça te fatigue ou il y a eu des moments où tu as senti que tu avais peut-être un peu trop poussé ta limite de t'adapter, on va dire, au modèle social d'autrui?
Je dirais qu'il y a des cas où c'est pas le masking en soi, c'est juste en fait le fait que bah du coup quand je suis en mode masking, je me rends presque plus compte de mes besoins, etc. Et donc du coup je me retrouve, par exemple, je parle avec des gens, au bout d'un certain temps en fait je me retrouve super angoissé parce qu'en fait je ne tiens pas à une discussion aussi longue. Mais du coup, vu que je suis en train de masquer,
Tu t'en rends pas compte
je
sur le
me rends
moment,
pas
quoi.
compte que j'ai besoin de m'arrêter jusqu'à ce que ce soit pratiquement trop tard et que je me retrouve au milieu de 40 personnes avec mon casque sur les oreilles en train de mettre de la musique à fond parce que je peux juste plus tenir la discussion.
C'est ce que décrit la plupart des auteurs autrices qui parlent du spectre autistique. Enfin, là, je pense beaucoup au bouquin de Julie Dachet. Et elle parle beaucoup de cette théorie, enfin, que ce soit dans La différence invisible ou dans ses autres ouvrages comme dans Ta bulle, mais où elle, enfin, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la théorie des petites cuillères, où elle dit qu'on a un stock d'énergie, entre guillemets, avec des petites cuillères, et que les personnes sur le spectre en ont beaucoup pour certaines activités et moins pour d'autres. On va dire qu'en quelque sorte, les capacités énergétiques entre neurotypiques et neuroatypiques ne sont pas réparties de la même façon, et qu'à trop négliger, on va dire, cette capacité d'énergie pomper certaines interactions sociales pour les personnes sur le spectre, bah le risque c'est vraiment du coup le meltdown ou le burn-out autistique, donc des surcharges sensorielles ou juste pousser trop dans ses retranchements en fait et plus pouvoir y arriver. Et oui, s'en rendre compte une fois qu'on a dépassé la limite en fait.
Du coup, c'est très très drôle parce que j'ai lu la différence invisible genre hier.
J'adore cette bande dessinée. Si on peut la recommander, n'hésitez pas à la lire. Elle est vraiment incroyable et elle est disponible dans la bibliothèque engagée, dans l'étagère de présence et enfin l'étagère accordée à l'association Présence, et on la prend avec nous en permanence et on la prête sans aucun problème. N'hésitez pas à venir nous la demander.
Et du coup, oui, et du coup, je l'ai lu parce que c'est moi qui avais ramené les livres après la dernière permanence de présence. Et justement, je les avais ramenés parce que La différence invisible avait l'air sympa. Je me suis dit, je vais lire cette BD. Et du coup, je l'ai fini hier soir.
Et alors?
Du coup, c'était très intéressant. Il y a quelques détails qui m'ont un peu gêné, typiquement le fait de parler de syndrome d'Asperger.
Ouais, ça c'est toujours un peu délicat, mais c'est vrai que c'est quand même très contemporain de parler de spectre autistique et de plus faire la distinction autiste canneur, autiste Asperger, mais je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que ça véhicule encore des stéréotypes entre une forme d'autiste très handicapante et avec une impossibilité de communication, et une forme d'autiste, ce que Joseph Chovanec appelle le singe savant, où on va obligatoirement penser que la personne est un génie.
Au-delà de ça, non seulement le fait est que l'appellation spectre autistique est bien meilleure, mais le fait de parler de syndrome d'Asperger spécifiquement, vu la personne dont on a donné le nom à ce syndrome, je suis conscient que la BD a probablement été écrite au moment où c'était pas encore, où c'était pas encore un sujet, où la personne qui l'a écrite n'était pas au courant, mais bon, le fait est que ça m'a gêné. Mais typiquement, quand on lit à la fin, ses travaux n'ont pas eu une reconnaissance immédiate dans la communauté scientifique. Peut-être des raisons pour ça aurait été intéressant de se renseigner avant de le dire.
Après, c'est vrai quand même, il faut quand même préciser que Julie Dachet, l'autrice de la bande dessinée, est quand même la première personne détentrice d'une thèse sur l'autisme, voilà, en France. Donc je pense que la BD a été publiée avant qu'elle soutienne sa thèse, mais Je ne doute pas tellement que maintenant elle est tout à fait compétente de pouvoir parler de ce genre de sujet.
Je l'espère. Du coup, c'est le c'est, à ma connaissance, parce que du coup, si ça se trouve, j'ai lu un autre de ses livres, je ne suis pas au courant, ça me surprendrait. mais c'est le livre de sa part que j'ai lu, donc je sais pas ce qu'il en est, mais j'espère que du coup, Aurélie ne parle plus de syndrome d'Asperger.
Du coup, je me demandais, c'est assez intime comme question, mais est-ce que ça t'arrive des fois d'être 100% naturel avec une autre personne? Ou il y a toujours une forme de masking qui vient se mettre en place?
Pas en face à face, je pense.
Ok, et du coup, quelle...
Après, en fait, vient la question de c'est quoi le naturel quand dans toute interaction verbale, je suis en train de masquer?
Oui, forcément. Donc, pas je une sais forme pas. De naturel. Tu as toujours cette forme de conscience de quelqu'un est dans mon espace, donc je me comprends différemment.
Bah du coup, c'est même pas conscient en réalité, mais oui, il y a de ça. C'est, en fait, quand je commence à parler, en fait, quand je commence à prononcer des mots, le masking vient se mettre en place presque tout seul, en fait.
D'accord.
Ça peut m'arriver d'être du coup un peu plus naturel, quoi que ça veuille dire, par écrit.
D'accord.
Et là, pour le coup, je pense que ça dépend d'avec qui je parle.
Du coup, une plus grande facilité à avoir des relations peut-être en ligne ou ce genre d'amitié peut-être
Du coup, je ne sais pas à quel point on peut parler d'amitié dans ces cas-là, mais...
Il n'y a pas de raison. Enfin, si tu lis tu te lis à quelqu'un de façon quotidienne, ce serait un petit peu... dur, entre guillemets, de refuser le terme d'amitié à ce genre de relation.
Du coup, c'est plus l'aspect quotidien, je pense, qui est pas si présent que ça.
D'accord.
Que
okay,
il y a la distance à la fois physique et temporelle occasionnée par Internet. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si on peut... Si, en tout cas, il y a des gens que je puisse considérer comme des amis... que je connais uniquement sur les réseaux sociaux. Mais oui, en tout cas, je trouve ça plus facile. Je trouve que c'est plus facile de discuter avec des gens par écrit, donc plutôt en ligne en général, qu'à l'oral. Mais donc, du coup, je ne suis pas forcément non plus très à l'aise, même en ligne, dans des salons vocaux ou des trucs comme ça.
Du coup, le fait de se sentir entre guillemets 100% naturel, ce serait quand tu es seul ou que tu fais certaines activités qui te plaisent. Enfin, c'est un peu lié avec ce que tu nous racontais au tout début de l'épisode, de des fois se prendre des gros tunnels de détermination et de même pas voir que le temps passe parce que t'aimes trop ce que tu fais.
Bah, du coup, je ne sais vraiment pas à quoi correspond cette notion de naturel, parce que en réalité, quand je vois pas le temps passer, le moment, enfin, que ce soit quand je suis en train de masquer ou quand je suis dans un tunnel de détermination, quand j'en ressors, je sens bien que j'ai presque l'impression que je n'étais pas totalement conscient quand je le dans les deux cas, c'est presque la même sensation en fait que de se réveiller le matin, se réveillant de la nuit en se disant
tu sais pas ce qui s'est passé quoi.
Oui, c'est... Alors, peut-être pas de manière aussi abrupte qu'en se réveillant le matin, mais il y a quand même cette idée.
Puis cette notion de temps peut-être aussi, où tu vois pas le temps filer, quoi. Ok. Et du coup, je me demande si tu pouvais faire une chose dans ta vie sans aucune forme de restriction. S'il n'y avait pas de nécessité d'avoir des revenus, par exemple, d'avoir un métier. est-ce que quelque chose que tu aimerais faire et que tu pourrais faire vraiment toute ta vie sans jamais t'en laisser?
C'est une bonne question. En réalité, il y a un certain nombre de choses où je sais que je pourrais y revenir toute ma vie. Que ce soit des chansons que je sais que à un moment, je les réécouterai. Pas maintenant, mais peut-être dans 2 ou 3 mois, ça redeviendra ma chanson principale que je mettrai en boucle pendant des heures. Ou des sujets un peu plus généraux... Par exemple, typiquement l'informatique. je me connais assez pour savoir qu'un jour, je referai, même si j'en fais pas là tout de suite, un jour, je referai de la programmation, pratico-pratique, sans des questions d'informatique théorique, d'algorithmique, etc. derrière, juste programmer pour programmer. Okay. Je sais que j'y reviendrai un jour, mais je ne me vois pas faire quelque chose en continu à vie.
Okay.
Je peux osciller de manière permanente entre quelques sujets d'intérêt. Pareil pour me. Enfin, vraiment, le parallèle est presque parfait avec ma playlist musicale, mais il y a des sujets que je découvre, comme il y a des chansons que je découvre et où je m'investis dedans pendant.
Et c'est une boucle
interminable. Je m'investis dedans pendant des jours et des jours, et puis après, soit je reviens à quelque chose, je finis par revenir à quelque chose que je connaissais déjà avant.
D'accord.
Que je reprends et ensuite je refais le cycle.
Et du coup, par rapport aux différents intérêts que tu décrivais à l'instant, est-ce que tu considères que ce sont des intérêts spécifiques ? Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, les intérêts spécifiques, c'est un des critères de diagnostic qui sont explicités dans le DSM-5 aujourd'hui, mais ils ont longtemps été appelés des intérêts restreints et qui étaient considérés comme un des traits autistiques principaux, c'est-à-dire un sujet spécifique sur lequel l'individu va passer énormément de temps, mais un sujet extrêmement précis, une niche entre guillemets, et l'individu n'aurait de ce fait aucun intérêt pour le reste. Donc l'appellation intérêt spécifique est quand même plus pertinente, je trouve. Déjà, ça enlève le côté restrictif, ce qui est quand même stupide quand on sait que la plupart des personnes sur le spectre peuvent passer leur vie intégralement à poncer ces sujets-là. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même de parler de restriction, mais bon, ça c'est une opinion personnelle, mais et surtout ça montre aussi qu'il y a peut-être aussi une forme de pluralité. Il y a une vraie passion pour certains sujets qui dépasse entre guillemets l'intérêt normé, mais c'est pas pour autant qu'il n'y en a qu'un. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Est-ce que tu considères que ça rentre dans cette appellation d'intérêt spécifique ?
Du coup, je pense qu'il y a quand même cette particularité, quand je répondais à la question d'avant, cette idée de cyclicité. Mm-hmm. Au final, je ne le fais pas tout le temps, mais il y a un moment où j'y reviendrai. Mais du coup, typiquement, je pense que si on considère que ce n'est pas un problème à l'appellation intérêt spécifique, alors pour moi, ce sont des intérêts spécifiques. Il y a quand même cette idée que je peux m'y perdre des heures durant et me retrouver avec un navigateur avec 70 onglets sur ce sujet-là parce que j'ai envie de tout comprendre comment ça marche.
Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui distingue un intérêt spécifique qui serait le propre d'une personne sur le spectre et une passion pour une personne sur le spectre ou non, en fait pourrait aussi être le cas chez une personne neurotypique.
Je dirais que la principale différence, c'est une question de normes sociétales.
D'accord.
Que, comme en réalité, c'est le cas pour le... C'est pour moi la principale différence entre le spectre autistique, même la neuroatypie et la neurotypie. C'est juste une question de normes sociétales, de les intérêts spécifiques... Des personnes sur le spectre peuvent être vues comme bizarres ou justement l'appellation intérêt restreint. Mm-hmm. Pourquoi cette personne se limite à ça surtout si l'intérêt spécifique en question est jugé étrange par la société. Donc je pense que c'est en fait, c'est la principale différence. C'est la question, c'est à partir de quel moment la société considère que
c'est plus. Un signe d'intérêt, quoi.
Alors, je dirais que c'est pas le critère principal.
Okay.
Le critère principal, c'est à partir de quel moment la société juge que c'est un intérêt trop étrange et trop intense.
Ok. Donc,
et le fait que ce soit.
La qualité et la quantité aussi.
Je pense qu'il y a des deux. Mais en fait, en réalité, à partir du moment où consacre trop de temps à un seul sujet,
oui.
ça finira par être vu comme étrange.
Être, oui.
Finira par être vu comme étrange.
Alors, je suis d'accord avec toi, mais je me permets juste de rajouter une petite précision qui est que la grande majorité, enfin la grande raison pour laquelle le diagnostic du spectre de l'autisme chez les femmes est souvent laissé pour compte et pour lequel on a l'impression que les échantillons prouvent qu'il y a plus d'hommes autistes que de femmes autistes, c'est aussi dû aux normes sociales qui sont inculquées aux petites filles de manière implicite ou explicite dès leur plus jeune âge et qui font que les intérêts spécifiques qu'elles ont développés dès l'enfance sont entre guillemets plus acceptés en termes de normes sociales. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus orienter vers le diagnostic ou on va attirer un peu notre attention vers un petit garçon qui va, je sais pas moi, être complètement fou, donc pour rester dans un cliché très autistique de train ou je sais pas moi, informatique, voilà. Et ça attirera moins l'attention qu'une petite fille fasse ça pour les chevaux, par exemple, ou pour les chiens, et qu'elle va apprendre l'intégralité des races. Enfin, il va falloir, je pense, qu'on tombe dans un excès de temps accordé, de précision et d'obsession, on va dire, sur ce sujet-là, pour que l'on commence à considérer que ce n'est plus dans la norme. Parce qu'il y a quand même aussi ça qui fait que avoir un intérêt spécifique, plus consensuel, ça a tendance aussi à délégitimer la place de la personne sur le spectre.
Oui, je sais pas, je réfléchissais s'il y avait quelque chose à rajouter, mais non, ça me... Ouais. C'est très clair.
Et du coup, au final, je voulais te demander, c'est une question un petit peu vaste, mais pour toi, c'est quoi être autiste ?
Bah, du coup, je pense que j'ai plus ou moins commencé à y répondre dans ma question précédente. C'est donc l'idée que, à mon sens, être autiste, c'est... ne pas rentrer dans les normes d'une société neurotypique sur quelques critères spécifiques. Mm-hmm. Dans le cadre de l'autisme spécifiquement, c'est donc avoir des intérêts spécifiques trop marqués, trop étranges, avoir des difficultés à comprendre les normes sociales, avoir des surcharges sensorielles, etc. À mon sens, être une personne autiste, c'est vraiment juste ne pas entrer dans les normes sociétales sur ces points-là. Et c'est tout. Il me semble qu'en réalité, on n'aurait presque pas besoin de parler de spectre de l'autisme si on avait une société qui était un peu moins refermée sur les neurotypiques.
Je suis tout à fait d'accord. Joseph Chomanek, qui est un penseur que j'apprécie beaucoup et qui est autiste, et qui dit que parler d'autisme comme handicap, si la personne, ça lui permet d'avoir accès à des aménagements et tout, évidemment, c'est hyper pertinent. Mais en fait, c'est toujours handicapé par rapport à quoi ? Et il prend souvent l'exemple en disant, bah, si t'es trop grand, entre guillemets, on considère pas que c'est un handicap, mais ça dépend dans quel établissement tu es, dans quel bâtiment, et ça peut être un handicap au final. Alors que si t'es dans une société qui est hyper centrée sur les besoins singuliers, on va dire, des personnes autistes, elles seront pas vues comme différentes et handicapées. Et il prend souvent l'exemple de l'homme politique, où il dit, au final, il faut les conduire, il faut leur écrire leur discours, il faut les habiller, puis il faut leur amener leur repas. Est-ce qu'on ne fait pas plus handicapé que ça, quoi, au final c'est un peu...
Je pense qu'il y a quelque chose à rajouter quand même par rapport à cette citation.
Ok.
Ça ne concerne pas du tout que l'autisme. Ça concerne déjà toute la neuroatypie, mais en réalité, c'est déjà beaucoup plus vaste. Tous les cas où quelqu'un est laissé en marge de la société, que ce soit pour une question de ce qu'on appelle un handicap au sens large, ou plus spécifiquement d'une neuroatypie, ou encore plus spécifiquement de l'autisme, mais ça concerne aussi d'autres choses, que ce soit les personnes racisées, les personnes queer, les femmes, etc. La réalité, c'est que tout cela n'est pas un problème en soi. C'est la société qui a plus ou moins choisi de laisser ces situations devenir, enfin, d'être considérées comme marginales et d'exclure les personnes concernées. Et c'est un choix de société, c'est un choix de société qui me semble plus que discutable.
Non, je suis tout à fait d'accord, et puis c'est aussi pour ça, enfin c'est aussi de là dont est partie l'idée de faire ce podcast et de donner la parole aux étudiants et étudiantes autistes de l'école. C'est aussi pour qu'ils aient une place en fait, qu'on sache qu'ils existent et qu'on ait accès en fait à cette singularité-là et que les gens s'éduquent aussi directement par la parole des concernés en fait, parce que quoi de mieux que de savoir directement ce qui se passe dans la vie de ces personnes singulières. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus spécialiste que les personnes elles-mêmes. Et voilà. Bah, je voulais te remercier d'avoir eu cette discussion. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, que c'était pas trop difficile à vivre.
Non, c'était super.
Ça m'a fait trop plaisir d'apprendre tout ça. Et voilà. Et si jamais tu veux revenir pour parler de sujets en particulier ou même de montrer un petit peu les retours qui ont pu avoir après cette annonce. Je serais ravie de te recevoir.
C'est noté.
Comme il est de coutume, je vous laisse vous complaire dans l'ambiance musicale de notre invité. Pour son épisode, Wessel a choisi d'envelopper son histoire dans la performance live de Demi Lovato, qui chante à Let It Go pour les Royal Variety Performance de 2014. Bonne écoute et à bientôt dans un prochain épisode de Stéréautisme.
Heaven knows I try. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Back anymore. Let it go.